Radio Cartable à l'FIGP pour cette nouvelle émission qui sera la dernière de cette année.
Passons tout de suite au sommaire.
Tout d'abord, les actus.
Puis, un reportage sur la réalité virtuelle dans la rubrique Geek.
Pour le cinéma, ce sera Zootopie que nous vous présenterons.
Première interview du directeur de l'Alliance française, Monsieur Frontero.
En histoire des arts, un personnage comique originaire de Lyon, Guignol.
Petite pause musicale avec le retour de Renaud.
In English, l'interview de l'excentrique homme au chapeau gruyère, Monsieur Ritz.
La rubrique en arabe sera la présentation de Nasreddin Hoxha.
Et pour finir, le micro-trottoir sur quel est votre meilleur souvenir de cette année.
Et tout de suite, les actus.
Des scientifiques de l'Agence spatiale américaine viennent de découvrir une nouvelle exoplanète baptisée Kepler-1647b grâce au télescope Kepler. Située à des milliers d'années-lumière de la Terre, elle pourrait abriter la vie. Selon les scientifiques, elle serait 11 fois plus grande que la Terre, c'est-à-dire aussi volumineuse que Jupiter, la plus grosse planète du système solaire. Elle aurait aussi plus ou moins le même âge que la Terre. Cette planète est tellement éloignée de la nôtre qu'il faudrait 3700 années-lumière pour l'atteindre, c'est-à-dire en voyageant à la vitesse de la lumière. C'est la première fois qu'on découvre une planète aussi grande en dehors de notre système solaire, lequel comprend 8 planètes dont la Terre, qui tourne autour du Soleil.
Des pluies records en mai. Vous avez peut-être vu qu'il a beaucoup plu en France. À quelques jours du début de l'été, une grande partie du pays fait face à une météo exceptionnellement mauvaise, qui a déjà fait déborder les fleuves. À Paris, le niveau de la Seine est monté de 5 mètres. Pour prévenir les habitants des zones qui peuvent être touchées par des inondations, Météo France met régulièrement à jour une carte de France où elle les informe de l'évolution des intempéries et des risques.
Élections américaines. Hillary Clinton face à Donald Trump. Hillary Clinton représentera le parti politique démocrate en novembre prochain lors de l'élection du nouveau président des États-Unis. Elle sera opposée au candidat du parti républicain, le milliardaire Donald Trump. C'est la première fois dans l'histoire des États-Unis qu'une femme gagne l'investiture de l'un des deux grands partis. Les Américains connaissent Hillary Clinton depuis longtemps. Elle est l'épouse de Bill Clinton, ancien président des États-Unis de 1993 à 2001. Déjà candidate pour devenir présidente des États-Unis en 2008, elle finit par renoncer face à Barack Obama.
Le Royaume-Uni quitte l'Union européenne. Dans quelques mois, le Royaume-Uni ne fera plus partie de l'Union européenne. 51,9% des Britanniques ont en effet voté pour que leur pays quitte l'Union européenne. C'est la première fois qu'un pays décide de quitter l'UE. Le Royaume-Uni ne veut pas sortir de l'Union européenne dès aujourd'hui. Une période de 2 ans est prévue pour que le pays puisse préparer son départ. Le Premier ministre, David Cameron, qui a organisé ces référendums et était favorable au maintien de son pays dans l'UE, a annoncé qu'il quitterait son poste dans 3 mois. Mais les conséquences réelles du départ du Royaume-Uni sont encore floues.
L'Euro 2016 est la 15e édition du championnat d'Europe de football qui a lieu tous les 4 ans depuis 1960. Pour la 3e fois, c'est la France qui accueille cette compétition internationale. La France, après un bon parcours dans les phases de groupe, a battu l'Irlande en 8e de finale et va rencontrer l'Islande. Elle fait figure de favorite de cette compétition avec ses joueurs vedettes comme Griezmann, Pogba et Payet. Mais d'autres équipes comme l'Allemagne ou l'Italie ont leur mot à dire.
Entre planètes découvertes, les élections américaines. On espère surtout que la France gagne l'euro.
Allez les bleus!
Qu'est-ce que c'est que ce casque?
Laisse-moi, je suis donc dans un parc d'attractions et ça descend!
Place à la réalité virtuelle. Bienvenue sur la rubrique Geek. Aujourd'hui, nous allons vous parler de la réalité virtuelle. Qu'est-ce que la réalité virtuelle ? La réalité virtuelle, c'est une simulation informatique interactive. Elle peut être visuelle ou sonore. Et elle peut être dans un environnement réel ou imaginaire. Avec la réalité virtuelle, on peut se projeter dans l'avenir ou dans le passé. Et alors, les origines ?
Les origines de la réalité virtuelle. Pour la réalité virtuelle, il faut remonter jusqu'en 1962 pour en trouver l'apparition, avec la création de Sensorama par Morton et League. Plus tard, dans les années 80, Steve Mann invente le iTap, un casque permettant d'afficher des informations virtuelles devant les yeux de son utilisateur. Ce qu'on peut qualifier comme le premier exemple de réalité augmentée. Alors Ryan, peux-tu nous parler des utilisations pour ces technologies ?
Il y a plusieurs façons de l'utiliser. Pour simuler quelque chose avec un simulateur, par exemple la conduite d'une voiture ou même d'une fusée. Pour soigner et traiter une maladie, par exemple, la chirurgie utilise la réalité virtuelle pour des opérations chirurgicales importantes. Pour construire, réaliser des œuvres numériques et ainsi imaginer de nouvelles constructions. Par exemple, construire de nouvelles tours comme ici à Dubaï avec la tour la plus haute du monde. Alors Leïla, pourquoi on ne doit pas sortir avec son casque ?
Voilà pourquoi vous ne devez pas sortir de chez vous avec votre casque de réalité virtuelle. Un avant-goût du futur. Un jeune Américain est monté dans un métro de Boston avec un casque de réalité virtuelle de Samsung Gear VR sur la tête et sa manette en main. Si le ridicule ne tue pas, ce genre de comportement est loin d'être sans danger. Merci de nous avoir écoutés.
Ça a l'air cool, il me tarde d'essayer. Restons un peu dans un monde virtuel où les animaux ont le pouvoir. Rendez-vous à Zootopie.
Bienvenue dans la rubrique cinéma. Aujourd'hui, nous allons vous parler de Zootopie. Zootopie est le 135e long-métrage d'animation et 55e classique d'animation des studios Disney, réalisé par Byron Howard et Rich Moore. Entièrement réalisé en images de synthèse, le film est une comédie policière et un buddy movie sorti en salle aux Émirats Arabes Unis le 3 mars 2016. Je vous en ai assez dit, maintenant rentrons dans les détails.
Synopsis. Zootopie est une ville cosmopolite où ne vivent que des animaux et où chaque espèce cohabite avec les autres. Qu'on soit un prédateur ou une proie, tout le monde est accepté à Zootopie. La jeune lapine Judy Hopps fait son entrée dans la police, mais son chef la colle à la circulation. Judy décide de prouver sa valeur en retrouvant des citoyens qui ont disparu. Pour cela, elle va avoir besoin de Nick Wilde, un renard escroc, pas vraiment disposé à l'aider. Très vite, ils vont découvrir la vérité. Une étrange épidémie rend certains animaux fous, dangereux et sauvages. La panique s'empare à Zootopie. Judy et Nick essaient de trouver d'où vient ce virus pour sauver leur ville. Mais qui est derrière tous ces personnages ?
Pour les voix, nous avons dans la version anglaise Shakira pour Gazelle, Jennifer Goodwin pour Judy Hopps, Jason Bateman pour Nick Wilde, Idris Elba pour Chef Bogo, Jackie Simmons pour le maire, Linehart. Et côté tournage, quelques informations croustillantes.
Autant cité, l'univers de Zootopie est peuplé de 64 espèces animales. L'équipe a passé 18 mois à faire des recherches sur les animaux, à rencontrer des experts du monde entier. Elle s'est également rendue au Kenya pour étudier le comportement animal et ainsi faire en sorte que les espèces représentées à l'écran le soient de la manière la plus réaliste possible. Un champion du casting. À noter la présence au casting vocal français de Teddy Riner, 8 fois champion du monde de judo, champion olympique 2012 et quadruple champion d'Europe entre autres titres glorieux. Il prête sa voix à Finnick, un fennec qui cherche souvent la bagarre. Un nouveau record pour Disney. Fort des 64 millions billets verts amassés en un week-end, Zootopia a signé le meilleur démarrage d'un film d'animation maison devant les 67 millions de La Reine des Neiges.
Un film d'animation à absolument voir en famille. Allez voir Zootopia, que l'enquête commence.
Zootopia, une ville étincelante où les animaux de toute espèce, prédateurs comme proies, vivent ensemble en paix.
Il faut qu'on travaille ensemble pour résoudre l'enquête. Je n'ai que 36 heures.
Il ne s'agit pas de vouloir absolument quelque chose, il s'agit avant tout d'en être capable.
Tu aimerais faire quel métier, toi ?
Je voulais faire vétérinaire, mais pas à Zootopia. Ils sont trop mignons.
Tu es déjà allé à l'Alliance ?
L'Alliance ? C'est pas une bague ?
Mais non, l'Alliance française, le centre culturel français. Nous avons invité son directeur et il va nous dire ce que l'on peut y faire.
Bonjour Monsieur Frontero et bienvenue à Radio Cartable à la FIGP.
Bonjour, merci.
Nous sommes honorés de votre présence.
Ah, honorés, vous êtes sûr ? Il faut dire plaisir. Honoré, c'est quand même quand vous recevez des gens importants.
Monsieur Frontero, pourriez-vous vous présenter brièvement pour nos auditeurs ?
Alors brièvement, moi je suis à Dubaï depuis 2 ans à peu près, un petit peu moins d'ailleurs. Je suis enseignant d'anglais et de français d'ailleurs. Et puis j'ai toujours été attiré par la vie à l'étranger, sans doute parce que je suis né moi-même à l'étranger. Donc voilà, j'ai commencé à travailler comme enseignant à l'étranger, puis après dans le réseau culturel, et donc dans l'Alliance française. Premier réseau culturel au monde.
Pourquoi avez-vous choisi ce métier ?
Bah, écoutez, c'est un métier qui rejoint à la fois la pédagogie, la gestion des ressources humaines, le domaine culturel qui m'intéresse beaucoup. Et c'est un formidable moyen d'aller à la rencontre de l'autre. Donc c'est exactement l'emploi que je recherchais.
Quelle est la mission, le rôle de l'Alliance française ?
Ben, la mission de l'Alliance française, c'est la diffusion et la promotion de la langue et de la culture. Alors avant, on disait française. Maintenant, moi, j'ai tendance à dire francophone, puisque la langue française est partagée. Ça sera, dit-on... d'ici une cinquantaine d'années, la première langue utilisée au monde. Donc voilà, c'est la diffusion de la langue et de la culture française et francophone.
De quelle manière travaillez-vous ?
De quelle manière je travaille ? Bah, écoutez, j'arrive au bureau à 8h30. Je gère un peu tous les dossiers. On travaille de plus en plus avec l'Internet. Donc on reçoit beaucoup de courriers qui viennent d'un peu partout dans le monde d'ailleurs. Moi j'ai une particularité, c'est sans doute dû à mes années étudiantes. J'aime bien travailler le soir quand il n'y a plus personne, quand il n'y a plus de bruit dans les bureaux. Donc en général vers 6h30-7h, c'est là où je travaille le mieux. Alors des fois jusqu'à 8h, 9h, des fois pas du tout aussi, hein, mais voilà, j'aime bien travailler quand il n'y a pas de bruit, que c'est calme et qu'on n'est pas dérangé.
Combien de personnes travaillent à l'Alliance française ?
Alors, combien de personnes travaillent à l'Alliance française ? Il faut savoir qu'à l'Alliance française de Dubaï, il y a à peu près 3100, un peu plus de 3100 inscriptions par année. Donc, il y a beaucoup de monde qui passe. Il y a 500 membres à la médiathèque. Donc, nous sommes une petite équipe. Si on regarde ce chiffre, il y a 13 personnes à l'administration. Et il y a une trentaine d'enseignants, 30-35 enseignants, ça dépend. Ce n'est pas des enseignants à plein temps, mais ce sont des enseignants qui viennent, qui travaillent ailleurs souvent et qui viennent donner quelques cours à l'Alliance. Et l'Alliance est divisée en 3 pôles. Il y a le pôle langue, qui est le plus important, c'est celui qui gère donc toutes ces inscriptions. Il y a un pôle culture depuis 2-3 ans maintenant, qui est de plus en plus aussi, qui prend de l'importance, puisque c'est la diffusion aussi de la culture. Et il y a qui englobe aussi la médiathèque d'ailleurs. Et puis il y a le pôle administratif qui règle les problèmes administratifs.
Comment se répartissent les étudiants de l'Alliance française ?
Alors ça, c'est une bonne question qu'on me pose régulièrement et auquel il est très difficile de répondre. Ce que je sais, c'est qu'il y a 35% d'Indiens pakistanais, ce qu'on appelle la péninsule. Il y a à peu près 25% d'Émiriens, beaucoup de femmes d'ailleurs, qui apprennent le français. Et puis tout le reste est à l'image de Dubaï, c'est-à-dire c'est très mélangé. Il y a vraiment, vraiment toutes les nationalités. Je ne saurais pas en dire une plus importante que l'autre. Ça dépend des années, ça dépend des sessions. En ce moment, on a beaucoup de gens, de Libanais, de Syriens, qui sont partis et qui veulent donc émigrer sans doute dans un pays francophone. Mais ça dépend des années. Mais la grosse majorité, c'est donc la péninsule indienne et puis les gens qui habitent aux Émirats.
Avez-vous déjà exercé un autre métier ?
Un autre métier, ben oui, enseignant. J'ai enseigné pendant 9 ans. Et puis pendant quelques années aussi, pendant 5 ans, j'ai travaillé à l'UNESCO pour la France et je m'occupais des questions scientifiques à l'UNESCO pour la partie française.
Est-ce que vous avez déjà exercé dans un autre pays ?
Alors, j'ai exercé dans beaucoup de pays. Quand j'étais enseignant, j'ai travaillé un petit peu en Afrique, c'était au Burkina Faso, j'ai travaillé un peu au Brésil. Et puis très vite, j'ai eu envie, ayant découvert le réseau culturel à l'étranger qui est un des plus importants au monde, sinon le plus important au monde actuellement, le réseau français. Donc j'ai commencé au Pakistan, puis après je suis parti au Canada, au Mexique, en Espagne, voilà, j'ai pas mal voyagé. Et j'ai eu un petit moment dans ma vie où je savais pas trop quoi faire, c'était ma première deuxième année d'université, et j'avais envie d'être photographe. Donc là je suis parti au fin fond de l'Indonésie prendre des photos. Et puis après il a fallu être sérieux, donc j'ai fait des études, j'ai terminé des études.
Avez-vous des passions ?
J'ai plusieurs passions. La première passion, c'est la musique. Toutes les musiques. Alors avec l'âge, on s'adoucit un petit peu. Donc j'aime beaucoup le jazz. Je trouve qu'il manque d'ailleurs un club de jazz à Dubaï. Et puis j'aime beaucoup la danse contemporaine aussi. Et ça manque ici.
Quel est votre livre préféré et pourquoi ?
Alors là, beaucoup de livres préférés. C'est difficile de dire un livre préféré. Mon livre préféré, en réfléchissant comme ça, je dirais que ça serait... j'ai toujours été passionné par la littérature latino-américaine. Et je suis très attiré par Gabriel García Márquez depuis toujours, notamment « Cent ans de solitude », qui lui a valu un Nobel de littérature, c'était en 82, je crois. L'automne du patriarche, enfin il y a eu l'amour au temps du choléra, il y a eu beaucoup beaucoup de livres qui m'ont vraiment touché. Je trouve que dans la littérature latino, que ce soit Marquez, que ce soit Jorge Amado, il y a toujours il y a de vraies valeurs humaines, il y a un humanisme qu'on trouve dans des auteurs français notamment, hein. Je pense à Victor Hugo par exemple ou Voltaire, Rousseau évidemment, mais surtout Hugo. On place l'homme avant tout, avant le business, avant les affaires, avant plein de choses. Et puis ils ont une manière satirique de raconter les choses, les latino-américains, donc ça me touche. Et puis j'ai découvert, s'il y avait un livre à choisir, ce serait celui-là, mais il y en a d'autres. J'ai découvert dernièrement, j'aime pas trop la littérature policière, mais on a invité Michel Bussy dernièrement, et je commençais à le lire et je suis tombé sur Les Nymphées à Noir et c'était un superbe, superbe livre policier. Puis encore une fois, je ne suis pas un spécialiste de la littérature policière, mais c'était très, très beau. Et puis j'ai découvert dernièrement aussi, enfin là ça remonte à plusieurs années, les années UNESCO d'ailleurs, Cynthia Fleury. Cynthia Fleury, c'est une philosophe qui a écrit deux superbes ouvrages. C'est le premier qui s'appelle « La fin du courage » et l'autre dernièrement qui s'appelle « Les irremplaçables ». Et là aussi, on place l'homme. L'homme est irremplaçable, quel qu'il soit. Et ça apporte quelque chose au débat, en tout cas actuel, où on a tendance à voir des hommes qui s'échouent sur nos plages, ne pas réagir. Et je trouve que c'est un bon moment de lire ça et de prendre conscience qu'il y a des choses qui se passent dans ce monde qui devraient nous faire réagir un peu plus.
Et vous, comment était votre CM2 ?
Mon CM2 était très très sympathique. Il a mal fini parce que j'ai perdu mon meilleur ami, que je l'ai perdu de vue, disons, parce qu'il est parti vivre en Italie. Mais le CM2 a été une bonne année. C'est une année où on grandit beaucoup. Parce qu'on va au collège après, donc on se pose plein de questions. Et c'est l'année où on passe de l'état enfant, je dirais, à l'état préadolescent. Donc on change beaucoup durant cette année-là. C'est l'année où il faut prendre des décisions, quel sport on va faire, quel instrument de musique je vais continuer à jouer, ou peut-être je vais commencer à jouer, quels sont les livres aussi... je vais passer de peut-être des bandes dessinées. Je vous ai pas parlé des bandes dessinées tout à l'heure, mais moi j'ai grandi avec Tintin et c'est peut-être ça qui m'a donné le goût du voyage. D'ailleurs, il y a eu Tintin, en plus après je suis parti passer à Corto Maltese, et voilà, je trouve qu'en France justement on a de nombreux auteurs de littérature jeunesse qu'il faut faire connaître aux écoles, aux étrangers. C'est pour ça aussi que l'Alliance française est là, pour faire se rencontrer ces cultures, ces artistes, ces journalistes, ces écrivains, de manière à ce qu'on se parle un peu plus dans ce monde.
Nous sommes ravis de vous avoir accueillis sur Radio Cartable, LFIGP.
Merci à vous, et puis bonne continuation.
Merci. Nous aurons certainement l'occasion de vous revoir à l'Alliance française.
Ah ben, vous êtes les bienvenus à l'Alliance française, vous le savez, hein, le lycée Pompidou vient régulièrement faire des activités, donc venez, nous avons des activités, en plus des activités pour les jeunes et pour les enfants, tous les mercredis et tous les samedis. Et puis nous avons des films pour tous les publics, donc vous êtes les bienvenus, vous êtes chez vous, à l'Alliance.
Un grand merci.
Trop top! Maintenant, je pourrais aller chercher des livres et des DVD à la médiathèque. Tu connais les célébrités de Lyon? La Casette? Mais non, pas au foot. Ben alors, Le Petit Prince? Bocuse. Et Guignol? Allez, les gones. Un peu d'histoire, des arts, pour vous présenter Guignol et Gnafron.
Guignol, personnage populaire, sans doute la marionnette la plus célèbre. Venez le découvrir avec nous dans cette rubrique Histoire des arts. Le personnage de Guignol est né à Lyon, des mains de Laurent Mourguet, au début du 19e siècle. Emblème de la ville de Lyon, Guignol est tout à la fois l'héritier des traditions du 19e siècle, chantre du parler lyonnais et support des traditions théâtrales du spectacle français de la marionnette. Mais Guignol n'est pas tout seul, n'est-ce pas, Mélodie ?
En effet, mais laissez-moi d'abord vous parler de Guignol. Guignol est le personnage principal du théâtre portant son nom, vêtu dans la tradition lyonnaise, d'une redingote marron et d'un nœud papillon rouge, le tout surmonté d'un chapeau bicorne au bord replié laissant dépasser une petite tresse de cheveux. D'un naturel enjoué, il représente le petit peuple dans ses qualités comme dans ses défauts. Ces Guignols incarnent des valeurs telles que l'amitié, le partage, le dévouement et la justice. Il lui arrive également d'être parfois roublard, tir au flanc et de mauvaise foi. Ces mauvais côtés le rendent beaucoup plus humain et renforcent la sympathie du public à son égard. Mais Noémie et les autres alors ?
Gnafron Cordonnier l'accompagne souvent. Dans la plupart des cas, ils sont amis, voire cousins. Quant à Madelon, seul personnage féminin récurrent, elle est soit la fille de Gnafron ou soit la femme de Guignol. De caractère bien trempé, parfois acariâtre, elle s'adoucit à la fin du 19e siècle. Mais comment font-ils chez Emma ?
les marionnettes. Lorsque Laurent Mourguet devient arracheur de dents en 1797 et qu'il décide d'attirer et divertir ses clients avec des marionnettes, il choisit pour des raisons de commodité des marionnettes à gaines de type Buratino. En effet, cette technique de manipulation très rudimentaire permet une grande liberté de mouvement puisqu'elle ne mobilise qu'une seule main par marionnette. Mais ça doit être dur de manipuler la marionnette, n'est-ce pas, Lilia?
Oui, en effet, c'est dur. Pour manipuler la marionnette, le marionniste va alors ganter ou chausser la gaine, c'est-à-dire glisser son avant-bras dans le tissu, puis dans ses doigts et dans la tête et les bras. Dans le cadre du théâtre de Guignol et de la gaine lyonnaise, le manipulateur passe son pouce dans un bras, son index dans la tête et les trois derniers doigts dans l'autre. Les comédiens jouent la plupart du temps derrière un casselet suffisamment haut pour dissimuler. Ils manipulent donc leurs marionnettes par-dessous, les bras tendus vers le haut, et ils font évoluer d'un bout à l'autre de la scène, devant un décor dressé au second plan.
Merci d'avoir écouté notre rubrique Histoire des arts sur Guignol. À une prochaine.
Si tu n'es pas sage, il va te mettre des coups de bâton.
Mais non, il est sympa. Allez, et tout de suite, la suite en musique.
Quelle est ta chanson préférée?
Qui a le droit? Chantée par le Kids United. Et toi?
Moi, c'est Mistral Galiant. Elle est trop belle, trop émouvante. C'est Renaud l'auteur.
Renaud est de retour.
Bienvenue dans la rubrique musicale où nous allons parler de la résurrection de Renaud.
Mieux connu de nos parents que les élèves, Renaud est un chanteur populaire dont on a décidé de vous parler dans cette rubrique musicale. Né à Paris en 1952 dans une famille nombreuse, Renaud Séchant délaisse ses études à 17 ans pour se consacrer à la musique.
Encouragé par le producteur Paul Lederman, Renaud devient un chanteur militant et contestataire. En 1975, il publie son premier album, Amoureux de Paname. Mais c'est avec le deuxième, Las Béton, en 1977, qu'il devient célèbre. Son public aime ses chansons en argot et son look un peu loupard, bandana accroché autour du cou. Ses albums vont être inspirés alors de sa vie personnelle. Il publie de nombreux albums. Ma Gonzesse en 1979, Marche à l'ombre en 1980, Morgane de Toi en 1983 et Mistral Gagnant en 1985. En 1993, il renoue avec sa première vocation et apparaît au cinéma avec le film Germinal de Claude Berry.
Après un album de reprise du répertoire de Georges Brassens, Renaud chante Brassens en 1996. Le chanteur s'éloigne de la scène. L'artiste sombre dans la dépression et l'alcool pendant plusieurs années. En 2002, c'est son grand retour avec l'album Boucan d'enfer qui passe en tête des ventes avec plus de 2 millions d'exemplaires vendus. Il gagne alors les prix de meilleur artiste, meilleur album et meilleure chanson pour Manhattan Kaboul aux Victoires de la musique en 2003. En 2014, un collectif de plusieurs chanteurs, parmi lesquels Jean-Louis Aubert, Raphaël ou encore Biolay, se retrouve autour d'un album hommage. La bande à Renaud, qui reprend les plus grands succès de l'artiste.
Les 30 années de carrière de Renaud ont eu une certaine influence sur la chanson française. De nombreux groupes et artistes disent avoir été inspirés par ses chansons comme Mano Solo, Trio, Zebda, Renan Luce ou Benabar. Ses 14 chansons sur son dernier album, Toujours Debout, sorti en avril 2016, montrent que Renaud est de retour. Renaud, c'est plus de 15 millions de disques vendus, des titres qui sont encore des standards de la chanson française aujourd'hui. C'est un vrai personnage de la culture française, c'est pourquoi il a été décoré en 2013 commandeur des arts et lettres.
Quittons-nous avec un extrait de Toujours Debout de son dernier album.
Toujours vivant, rassurez-vous. Toujours la banane, toujours debout. Je suis retapé, remis sur pied, droit sur mes guiboles, ressuscité. tout ce qui tombe autour de moi. C'est l'hécatombe, c'est Guernica. Tout ce qui tombe, tombe à tour de bras. Et moi je suis toujours là, toujours vivant, rassurez-vous, toujours la banane, toujours debout.
Quelle carrière, quel retour! Heureusement que la bande à Renaud lui a redonné l'envie d'écrire. Ta-ta-tan!
Tu te souviens du grand monsieur avec son chapeau en gruyère, son nœud papillon orange et Yoshi sur sa ceinture?
Oh yes, it was awesome.
Let's go to the Bronx.
From Bronx, New York City, he is educator, innovator, social entrepreneur, and keynote speaker. Please welcome Stephen Ritz to Radio Cartable LFIGP.
How did you get the idea of planting and growing crops with your students?
Well, I believe that my students are my seeds. So I believe that seeds represent genetic potential, and I want all of my students to reach their God-given genetic potential. So when I realized that I could put something in the ground and get a crop of epic proportions, très bon, it was incredible.
How do you plant your crops?
I plant a couple of ways. So I use a couple of different techniques. I use soil, just like you guys do at your school. And I also use aeroponic techniques called a tower garden, which means I'm growing vertically up. I use about 90% less water, which is really critical here in UAE, and 90% less space, because in New York City, I'm very space challenged. So I like to say, as the gentleman who introduced me, I'm very much in love with innovation, so I'm always trying to figure out new ways to do something great and make epic happen.
Why do you think Green Bronx will build your community?
Well, I believe that when people think of the Bronx, they have a lot of misconceptions. And the whole notion of a green Bronx, a brighter Bronx, a happier Bronx, a healthier Bronx is critical for me, and it's critical for the world to see. So I believe that we're changing mindsets, and we're also changing landscapes, and we're also changing health outcomes. So for me, there's a triple bottom line that's better for everybody, and that's the mission behind the work.
Why did you choose to call your program Green Bronx Machine?
Okay, because we call it Green Bronx Machine because, number one, we wanted to represent where we live, which is the Bronx. We wanted to talk about the work that we're doing, which is greening. And I believe that we are the machine. That people, this should become automatic, this kind of mindset that we can be happy, we can be healthy, we can be resilient, we can have inclusive communities, should be automatic. So we gave birth to the Green Bronx Machine. Si se puede, as we say in Spanish, and I have to learn how to say it in French.
What is the response from your students?
My students are happy, my students are healthy, they are coming to school, and just like all of you wonderful, happy children here, they are excited to share and export their talent and diversity in ways that they've never imagined. They are so proud of me here being with you today, and I can't wait to play your interview to them and maybe connect my kids with you students via the internet so that together we can grow something greater and influence the whole world.
We usually ask our guests this personal question. Hope you don't mind it.
Uh-oh.
How was your fifth grade, and do you recall your thoughts during that year?
Fifth grade was awesome. I still think I'm the oldest fifth grader you're ever gonna meet. And the cool thing about being with fifth graders is you guys don't get older, only I do. I get a new crop of fifth graders every year. So fifth graders are rock stars. I love them. It's right before your final year of elementary school, at least in the United States. So it's a great time to be like just on the cusp of greatness. But you know, you're young enough to get along and young enough to be excited by everything. So fifth grade is awesome.
We're honored and grateful for your presence among us today, and we wish you all the luck for your future plans.
Well, thank you. I'm honored to be here, and I wish all of you luck and success because you guys are going to change the world. I'm just going to get to watch and clap, but you guys are really going to do amazing things. So for each and every one of you, I wish you a happy, healthy, vegetable, fruit and vegetable filled life. Grow something great. Si se puede. Can't stop.
Won't stop.
Oh, let's do that together, shall we, on the microphone? When I say can't stop, you say won't stop. Can't stop?
Won't stop.
Can't stop?
Won't stop.
Si se puede. And we'll do one more people power. You ready? So when I say people, you say power. People?
Power.
People?
Power.
Awesome. You guys are rock stars.
C'était génial. Il nous a donné trop de power.
Après la rubrique en anglais, comme dans chaque émission de Radio Cartable LFIEP, c'est au tour de la langue arabe d'être à l'honneur.
Personnage farfelu, lui aussi, place à un peu de lecture avec Nasreddin Hoxha et ses histoires sages, ou pas.
أهلاً وسهلاً، سنكلمكم اليوم عن شخصية خيالية في راديو كارتابل. هذه الشخصية عرفت في قصص الشعبية تحت أسماء مختلفة، ويقال أن هذه الشخصية عاشت في الكوفة بالعراق في القرن الثامن، وقيل كذلك أنه عاش في الأناضول بتركيا في القرن الثالث عشر،
واختلفت أسماؤه حسب المناطق والبلدان، ففي المغرب العربي يدعون جحا، وفي تركيا يسمى نصر الدين هدزة، وفي أفغانستان وأذربيجان يسمى الملاء، وفي آسيا الوسطى أفندي. لكن كل قصصه متشابهة وتدل على أنه تخص نفس الشخصية. قصصه عجيبة ومضحكة، وحكايته متنوعة، طرائفة وعجيبة وغريبة، تدور جميعها بين جحا وحماره، والكثير من الشخصيات المضحكة وتخص الأطفال والكبار.
والآن للنهاية سنحكي لكم حكايتان من حكايته المضحكة.
جاءه الضيف ونام عندما فلم، كان منتصف الليل، أفاق الضيف ونادى جحا قائلا: ناولني يا سيدي الشمعة المذوعة على يمينك. فاستغرب جحا طلبه وقال له: أنت مجنون؟ كيف أعرف جانبي اليمين في هذا الظلام الدامس؟ قصة جحا أيامها أحب إليك. جلس جحا مع زوجته يستسامرون، وطاب للزوجين أن تحرجا، فسألتها: من منا تحبها أكثر يا جحا؟ قال جحا لهما: أنتما مع حبتين إلى قلبي. قالت: لا، أنك لا تستطيع أن تضحك منا بهذه المراوغة، وأمامك هذه البرك نخيرك في إغراق أحدنا بها، فمن منا تلقي بها في الماء لأن. وحار جحا في أمرها، ولكن التفت إلى زوجته الأولى قائلا: اذكر أنك تعلمت سباحة منذ زمن يا عزيزتي.
J'adore ces histoires, elles me font trop rire.
Pour finir, laissons la parole aux enfants et à leurs meilleurs souvenirs de cette année.
Quel était votre meilleur souvenir cette année?
Quand on est parti à Oum El Kouaim, parce que on s'est amusé. on avait le droit de dormir avec nos copines dans les mêmes chambres.
Le carnaval, parce qu'il y a eu plein de jeux et c'était amusant.
Mon meilleur souvenir cette année, c'était quand on est parti à Oum El Kouaim, parce qu'on a fait plein d'activités qui sont amusantes.
Quel a été votre meilleur souvenir cette année?
Le gala, parce que on était tous ensemble et c'était bien.
Le gala aussi, et la sortie à Oum El Kouaim, parce que c'était bien, on avait fait plein d'activités.
C'était le voyage à Oum El Kouaim, parce que c'était vraiment très amusant et on a fait plein d'activités.
Au voyage à Oum El Kouaim et au gala, parce qu'il y avait beaucoup d'activités à Oum El Kouaim, et le gala, on était tous ensemble dans une soirée.
Quel a été votre meilleur souvenir cette année?
Mon meilleur souvenir, c'est la classe, la maîtresse et tous les amis.
Le cross. Seulement. Parce que j'aime bien courir
et j'aime beaucoup les compétitions.
Quels étaient vos meilleurs souvenirs de cette année?
Le tournoi de foot, parce que c'était bien, c'était très amusant.
Les enquêtes de l'inspecteur Lafouine, parce que ça me donnait vraiment du suspense de qui pouvait être le coupable, pourquoi est-ce qu'il pouvait être le coupable. Et c'est intéressant de voir comment est-ce que ce crime a été fait.
Mon meilleur souvenir de cette année, c'était Ras El Khaimah, parce que c'était vraiment amusant et c'était, et on s'ennuyait pas du tout.
Moi, ça a été à Ras El Khaimah, parce qu'on s'est vraiment amusé et on a nagé dans la mer, on a découvert plein d'animaux.
C'était à Ras El Khaimah parce qu'on a passé un très bon moment, on s'est bien amusé, on a appris beaucoup de choses sur beaucoup de choses. C'était à Ras El Khaimah parce qu'on a passé un très bon moment, on s'est bien amusé, on a appris beaucoup de choses sur beaucoup de choses.
C'est quand on était allé au cinéma pour voir Le Petit Prince parce qu'on pouvait choisir nos places et on pouvait rigoler avec tous nos copains et tout.
Mon meilleur souvenir cette année, c'était le carnaval et le gala. Le gala, car on pouvait rester avec tous nos amis dans une table et on pouvait danser. Et le carnaval, car on s'est amusé, on est parti dans l'autre école pour montrer notre déguisement.
Mon meilleur souvenir de cette année, c'était le voyage à Oumel Kouin, car on était ensemble, on était dans une chambre ensemble et on s'amusait ensemble.
Le meilleur souvenir de cette année, c'était la visite au collège, car c'était amusant et on pouvait savoir ce qu'on va faire l'année prochaine.
Mon meilleur souvenir cette année, c'était le gala, parce qu'on était tous ensemble, réunis, et on s'amusait beaucoup avec la musique. Et aussi le voyage à Oumel Kouin, parce qu'on était tous ensemble et on faisait des activités toute la journée, on ne pouvait pas s'ennuyer.
Voilà, c'est fini. Les classes de CM2 D3 et CM2 D6 partent au collège.
Bonnes vacances à tous!